Bonsoir et bienvenue pour cette dernière séance de ce cycle-ci. Donc, à la séance précédente, on avait commencé à examiner la philosophie socratique en nous demandant qu'est-ce qu'elle avait de si particulier qui puisse justifier le fait qu'on y voit vraiment une rupture dans l'histoire de la philosophie, s'achèvent les pré-socratiques avec Socrate et puis commence autre chose. Et donc on avait déjà remarqué que ce qui était très particulier à Socrate, c'était de ne s'intéresser qu'aux valeurs morales et à propos de ces valeurs morales, de chercher à les fonder de manière universelle, de chercher à leur trouver une définition qui puisse être acceptée par tout le monde, qui puisse être indiscutable, et non pas en s'opposant aux valeurs traditionnelles, mais en reprochant justement aux valeurs traditionnelles de ne pas avoir leur propre légitimation, leur propre justification de ce qu'elles avancent. Donc ça, c'était le principal acquis, avec une méthode, comme on l'a vu, une méthode double, à la fois l'ironie, c'est-à-dire la position d'ignorance, et l'elenkos, c'est-à-dire la réfutation, la mise à l'épreuve de ce que les autres vont avancer comme opinion. Cette méthode, dont on avait vu qu'elle n'était pas seulement négative, ce n'était pas qu'une destruction, mais il y avait un côté positif qui était que l'aveu d'ignorance, la reconnaissance de sa propre ignorance, était la première étape sur la voie de la sagesse, puisque c'était ce qui permettait de balayer tous les faux savoirs, de se nettoyer l'esprit de toutes ces évidences communes qu'on entend partout et qu'on finit par ne plus interroger, dont on finit par croire que ce sont des vrais savoirs. Donc la première entreprise avant de philosopher, c'est de détruire les faux savoirs, c'est de se rendre compte que tout ce qu'on croit savoir, en fait, ce sont des opinions qui ne sont pas justifiées et finalement qu'on ne sait rien avec certitude. Donc ça, c'était déjà très particulier à Socrate, ça le distinguait de l'ensemble de ce qu'on appelle les pré-socratiques, à la fois les physiciens et les sophistes. Alors aujourd'hui, ce que je veux encore évoquer, qui me paraît vraiment deux points essentiels dans l'apport de Socrate à la philosophie, c'est d'abord la question de l'obéissance aux lois et comment Socrate verrouille d'une certaine manière toute possibilité de désobéissance civile. Alors ça, c'est bien sûr à propos de son refus de s'évader de la prison, son refus de se dérober à la condamnation à mort. Et la deuxième chose, c'est comment il commence à annoncer la théorie des formes que développera Platon, donc comment il développe à propos des notions morales, toujours ces fameuses notions auxquelles il est attaché, comment il essaye de trouver quelque chose qui progressivement va être érigé en modèle absolu à la manière platonicienne. Donc je vais déjà repérer dans certains textes, des expressions qui annoncent le développement platonicien. Alors, pour la première question, on la trouve essentiellement dans le Criton, parce que Criton, c'est le nom d'un ami de Socrate qui vient voir Socrate dans la prison alors qu'il attend la condamnation à mort. Donc, sa mise à mort a été repoussée pour des raisons rituelles. Et donc, il l'a attendu pendant plusieurs jours en prison. Criton vient le voir et lui dit « Écoute, je peux tout arranger, on est plusieurs à pouvoir te faire évader, il n'y a pas de problème, on a l'argent, on peut te faire voyager, on a un endroit où des gens vont t'accueillir dans une autre cité. » Et Socrate lui dit « C'est pas la peine d'insister, je refuse. » Et les raisons qu'il avance sont des raisons intéressantes. Il y a une partie des raisons qui sont assez banal et que je ne vais pas du tout approfondir. Le fait que de son grand âge, le fait qu'il est très attaché à Athènes et qu'il n'a pas envie d'aller recommencer une vie ailleurs dans une cité étrangère, bon, ça, je laisse de côté. Mais il y a une raison particulièrement développée qui est justement l'obéissance aux lois. Donc, comment est-ce que ça fonctionne dans le Criton? Et après, je ferai la comparaison avec le Socrate de Xénophon, qui permet d'avoir un éclairage un peu différent justement sur la même question, la question de l'obéissance aux lois et son rapport avec la justice. Donc on sera en même temps dans la dimension politique et la dimension morale. Le raisonnement dans le Criton consiste à dire que de la même manière que le corps peut être détruit par des mauvaises pratiques, l'âme aussi peut être détruite, et ce qui la détruit en propre, c'est l'injustice. Non pas celle qu'elle subit, mais celle qu'elle commet. Commettre une injustice nous rend, nous ruine, nous rend mauvais, nous rend nous met dans un mauvais état de la même manière que le corps peut être dans un mauvais état. Or, dit Socrate, rendre une injustice pour une injustice subie, c'est une injustice. Hein, rendre le mal pour le mal, c'est un mal, c'est une injustice. Contrairement à ce qu'on avait vu la semaine dernière, donc à l'opinion commune qui, en Grèce, considérait à l'époque qu'il faut rendre le mal pour le mal, il faut être injuste quand on est injuste avec vous, et donc il faut ne faire du bien qu'à ses amis et du mal à ses ennemis. Donc contrairement à cette morale qui n'est pas du tout encore une morale chrétienne de la soumission, de l'acceptation, Socrate donc, est le premier à formuler de cette manière. Là, non, rendre une injustice, c'est être injuste, il ne faut pas le faire. Et donc il va montrer que en s'évadant, il commettrait une injustice. En s'évadant, donc même si le jugement est injuste, même si la condamnation est injuste, ce qu'il reconnaît, parce qu'il n'a pas, il n'estime pas évidemment avoir commis ces délits, malgré tout, s'il s'évadait, il commettrait une injustice. Quelle est la logique en fait de ce raisonnement? Alors, c'est une logique assez complexe, justement. Et elle va arriver par ce qu'on appelle une prosopopée des lois, c'est-à-dire une présentation des lois en personne. Hein, les lois personnifiées s'adressent à Socrate. Donc, c'est le mot prosopopée. Et elles vont lui donner une série de raisons pour lesquelles il ne doit pas les enfreindre, donc ne doit pas s'évader. Alors, je les reconstitue en six raisons. On pourrait éventuellement trouver d'autres divisions. Bon, la première d'entre elles, c'est que désobéir à la loi détruit la loi. Hein, désobéir détruit la loi. Parce que si on peut désobéir à la loi, on conteste son autorité, et donc à ce moment-là, n'importe qui d'autre peut lui aussi contester l'autorité d'une loi, et si les lois ne sont plus respectées, elles ne servent plus à rien, autrement dit, c'est comme si elles n'existaient pas, et du coup, on détruit aussi toute la cité, parce que la cité, c'est justement l'organisation complète du vivre ensemble à partir de lois fondamentales. Hein. Les lois sont surtout constitutionnelles, elles organisent le fonctionnement de la cité, elles organisent la manière de prendre les décisions, de s'organiser ensemble. Donc, si on détruit ces lois, on détruit la cité. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que tout citoyen passe un accord, voire un contrat, hein, il y a les deux mots, accord et contrat, avec les lois de sa cité, en acceptant de s'y soumettre et de leur obéir. Donc, il y a la notion de contrat social hein, qui est affirmée et qui doit être reconnue telle qu'elle. Il y a un contrat social. Si on est citoyen d'une cité, on se soumet aux lois de cette cité. Une troisième raison, c'est qu'il faut vénérer les lois plus encore qu'un père et une mère. Donc ça se situe plutôt dans l'horizon de nouveau très traditionnaliste de l'ancienne morale, qui est que on peut absolument commettre aucune violence envers son père et sa mère, hein, et le parricide ou le matricide est plus grave que n'importe quel autre crime, pour des raisons qui tiennent presque à l'art, enfin, une sorte de sacralisation de l'autorité parentale qui est presque religieuse. Et pour les lois, c'est pareil, et c'est même encore plus le cas, puisque ce sont même les lois qui ont permis au père et à la mère de se rencontrer, hein, de vivre ensemble d'une certaine manière, de faire des enfants. Alors, une quatrième raison, c'est que, elle complète un peu la deuxième, l'accord, hein, le contrat social, c'est que on est en démocratie, alors l'argument ne serait pas valable dans un autre régime, mais on est en démocratie, donc tout citoyen a la possibilité d'aller à l'Assemblée, proposer des lois, proposer de modifier des lois qui ne lui conviennent pas, hein, donc défendre son point de vue sur les lois, chacun a la possibilité de le faire, et de persuader ses concitoyens de suivre son opinion. Donc, puisque chacun a la possibilité de le faire, il doit aussi accepter que les autres aient cette possibilité et se soumettre à l'avis de la majorité, même si ce n'est pas le sien qui prévaut. Donc, ça fait partie de ce contrat social en démocratie. Il est encore plus acceptable que dans un autre régime, puisqu'on a la possibilité vraiment effective de défendre son point de vue et de le faire adopter. La cinquième raison est liée à celle-là. Si on n'a pas pu faire adopter son point de vue et qu'on est vraiment en désaccord avec les lois instituées de sa cité, rien ne vous empêche de changer de cité et d'aller dans une où la législation vous convient mieux. Il y avait une grande diversité entre les législations des cités, donc c'est quelque chose d'assez faisable. Rien ne vous empêche, on vous laisse partir. Et enfin, La dernière raison, c'est que la condamnation injuste que subit Socrate ne vient pas des lois, elle vient du tribunal, c'est-à-dire elle vient d'êtres humains qui se sont trompés. Les lois ne sont pas en cause. Et cette dernière indication est très importante parce qu'elle montre bien le rôle différent que Socrate attribue aux lois et aux tribunaux. Et ceci est essentiel pour le raisonnement. Alors, ce n'est pas que Socrate qui fait cette différence, hein, c'est une différence qui est théorisée depuis longtemps. La loi ne concerne que la généralité, l'institution générale. C'est au tribunal de juger des cas particuliers, donc d'appliquer le général au particulier. Mais surtout, la loi, et alors je dis toujours au singulier au sens de le corpus des lois, hein, c'est bien sûr, il y en a plusieurs. La loi, d'une part, c'est elle qui définit les délits, hein, donc c'est elle qui définit ce qui n'est pas permis, hein, et ce qui est encouragé. Et en définissant les délits, Socrate veut dire qu'elle définit ce qui est juste et injuste. C'est-à-dire que c'est seulement à partir du moment où quelque chose a été spécifié par la loi comme un délit que cette chose-là devient injuste, qu'il devient injuste de la commettre. Et en même temps, la loi institue le tribunal comme l'instance capable d'en juger. Elle institue le tribunal comme souverain. Donc la loi garantit que le tribunal est souverain. Autrement dit, si quelqu'un conteste la décision d'un tribunal en disant « oui, mais c'est un jugement humain, il peut se tromper », ce qui est vrai, du même coup, il conteste sa souveraineté qui lui a été donnée par la loi. Donc il conteste aussi la loi. Et ça, ce n'est plus permis. Donc, c'est une partie du raisonnement, hein, qui fait qu'on ne peut pas contester la décision du tribunal puisque le tribunal a été institué par la loi et que la loi, elle, est du côté de... Enfin, par contraint, hein, pour toutes les raisons qu'on a dites précédemment, est hors de discussion une fois qu'elle est instituée. Mais remarquez surtout ceci, c'est que Socrate dit bien que le juste et l'injuste ne sont pas ceux qui fondent la loi, donc la loi n'institue pas les délits à partir de ce qui lui semble juste et l'injuste, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les choses deviennent justes et injustes à partir du moment où la loi les a définies comme telles. Et donc Socrate peut dire tranquillement, hein, ce qui est juste, c'est d'obéir à la loi. C'est logique à ce moment-là. Et donc, voyez immédiatement pourquoi ça coupe tout recours possible à la désobéissance civile. Parce que quand on revendique une désobéissance civile, c'est au nom de quoi ? C'est qu'on dit, j'estime qu'une loi n'est pas juste, et par conséquent, je lui désobéis. Mais au nom de quoi je pense qu'elle n'est pas juste ? Au nom d'une autre justice. Je dois invoquer une autre instance qui me donne une autre conception de la justice, au nom de laquelle je conteste celle de la loi instituée. Et il vaudrait mieux, évidemment, qu'elle soit supérieure, même, cette instance. Qu'elle soit supérieure aux lois humaines pour que je puisse contester les lois humaines en son nom. Par conséquent, quand on fait de la désobéissance civile, c'est toujours très facile de se mettre sous une autorité transcendante. Le faire au nom d'une religion est le plus facile. Hein, le faire au nom d'un dieu est le plus facile. Opposer de lois divines aux lois humaines, c'est évidemment se trouver du côté de la plus haute autorité. Bon. À défaut de croire en un dieu, on a pu aussi essayer d'instaurer un droit naturel. Donc, revendiquer l'autorité de la nature, c'était aussi essayer de revendiquer quelque chose de supérieur aux lois instituées par les hommes. Et donc, c'est comme ça qu'on a essayé de fonder un droit naturel pour garantir des droits humains universels qu'aucune loi instituée ne pourrait compromettre, contredire. Alors, si on n'accepte pas les transcendants, c'est-à-dire si on n'y croit pas, qu'est-ce qu'il reste à faire pour prôner une désobéissance civile ? Eh bien, c'est extrêmement difficile. Il faut invoquer une éthique, hein. Il faut invoquer d'autres valeurs, des valeurs qu'on estime plus humaines, justement, plus respectueuses de l'humain que celles des lois instituées, mais on se trouve au même niveau. On ne peut pas gagner d'emblée, c'est un rapport de force, parce qu'on n'a pas cette supériorité que donne la transcendance. Donc, il faut bien voir pourquoi c'est difficile, la désobéissance civile. Enfin, difficile, pas de la pratiquer, ça c'est difficile pour d'autres raisons, mais de la justifier. C'est difficile de la justifier pour cette raison. Alors, donc, Socrate, il semble bien que lui, de toute façon, il empêche tout recours à la désobéissance civile pour une autre raison, c'est qu'il situe, encore une fois, le juste et l'injuste comme créés par les lois. Et donc, on ne va pas contester les lois au nom du juste et de l'injuste. Il faudrait éventuellement les contester pour une autre raison, mais pas pour celle-là. Pour celle-là, ce n'est pas possible. Socrate lui-même, d'ailleurs, mentionne deux épisodes dans son apologie où il a contesté un ordre qui lui venait de l'autorité politique. Et dans ces deux épisodes, à chaque fois, on constate qu'il a désobéi à un ordre, à un commandement, parce que ce commandement n'était pas conforme à la loi. Donc c'était toujours au nom de la loi que Socrate désobéissait à un ordre, et non pas au nom de la justice que Socrate désobéissait à une loi. Donc ce n'était pas au nom de la justice. Jamais il ne revendique la justice quand il parle de ces deux épisodes, de ces deux moments où il a désobéi. Le problème, le gros problème maintenant de cette théorie qu'on trouve dans le Criton, c'est que il y a une contradiction dont je ne suis pas sûre que Socrate se soit aperçu ou non. Donc c'est ça que je vais essayer de voir par la suite. Une contradiction chez Socrate entre le fait d'obéir inconditionnellement à la loi et d'autre part sa revendication morale concernant certaines conceptions, certaines valeurs dont il hérite par la tradition et auxquelles il tient fermement. Qu'est-ce qui se passerait si les lois instituées ordonnait de renoncer à une de ces valeurs auxquelles lui y tient pour des raisons morales. Si la loi disait par exemple, il faut arrêter d'être tempérant. Ça n'est pas absurde comme exemple. Je choisis volontairement cette valeur-là parmi le courage. On ne va jamais demander, aucune cité ne va jamais demander qu'on renonce au courage puisqu'elle veut toujours envoyer à un moment ou l'autre à la guerre, donc on a besoin du courage. Mais la tempérance, si vous réfléchissez un peu à certaines injonctions qui nous viennent d'en haut en ce moment, on nous demande de renoncer à la tempérance, on nous demande de consommer. Donc ce n'est pas absurde. Et donc on peut très bien imaginer, et que ferait Socrate dans ce cas-là? Il serait pris dans un dilemme insurmontable. Parce que d'une part, il ne pourrait absolument pas renoncer à sa valeur morale, et d'autre part, il serait obligé d'obéir à la loi, puisque c'est ça qui est juste. Est-ce que Socrate s'est rendu compte de cette contradiction? Alors, on peut avoir recours à une autre œuvre qui s'appelle l'Hippias, toujours de Platon. L'Hippias, et qu'on appelle majeur, parce qu'il y avait deux dialogues qui s'appelaient Hippias. Alors, il y en avait un qui était plus petit et un plus gros. Et le plus petit, c'est le mineur, et le plus gros, c'est le majeur. Donc, c'est l'Hippias majeur, du nom du sophiste Hippias. Qui a un entretien avec Socrate, et c'est une petite partie de cet entretien, très très rapide, très succinct, qui concerne l'obéissance aux lois. En effet, Hippias exprime l'opinion commune selon laquelle il y a des lois qui sont mauvaises, il y a des lois qui sont mal faites, qui sont nuisibles à la cité. C'est l'opinion commune. Et donc se pose la question, bien sûr, du coup, au nom de quoi est-ce qu'on peut les mettre en question en les jugeant mauvaises. Et Socrate le fait changer d'avis très rapidement, trop rapidement d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment reconstituer tout ce qui est implicite dans ce retournement. Socrate le fait changer d'avis en lui faisant reconnaître que, en réalité, d'une part, ceux qui instituent les lois le font toujours pour l'intérêt de la cité, pour l'intérêt général. Donc, l'intérêt de la cité, c'est l'intérêt de toutes les couches sociales qui composent la cité. Alors, on ne sait pas trop pourquoi Hippias accepte ça. Et deuxièmement, Socrate lui fait reconnaître aussi que ceux qui se trompent, puisqu'on a reconnu qu'il arrivait que les législateurs se trompent sur l'intérêt de la cité, donc ceux qui se trompent sur ce qui est utile à la cité, eh bien, ils se trompent sur la loi, justement. Et cette phrase est assez sibylline. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ceux qui se trompent en instituant des lois nuisibles pour la cité, ils se trompent sur la loi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, on peut le comprendre par la phrase qui suit. La phrase qui suit dit « Ceux qui connaissent la vérité savent que le plus utile est conforme à la loi, est plus conforme à la loi que le moins utile, que le plus nuisible. » Et alors, je vous l'ai dit, c'est très ramassé, très, très implicite, très sibyllin. Mais comment je comprends ça? En fait, il faut se souvenir que Socrate ramène toujours la question éthique à une question de connaissance. Donc, le « ceux qui savent » est la clé d'un raisonnement extrêmement important. « Ceux qui savent » pour Socrate, ceux-là, ils ne vont pas se tromper sur ce qu'est l'intérêt de la cité, et donc les lois, si eux les édictent, seront des lois qui viseront vraiment cet intérêt, et ce seront des vraies lois. Et donc, implicitement, il reconnaît que des lois qui se trompent, qui sont faites donc par des gens qui ne sont pas suffisamment savants, suffisamment compétents pour les faire, les lois qui se trompent ne sont pas vraiment des lois, ne sont pas des vraies lois. Et donc, il y a ici une sorte de redéfinition de la loi. Une vraie loi, c'est une loi qui est vraiment... qui vise vraiment l'intérêt général de la cité. Mais ça ne change rien sur le plan pratique, parce que sur le plan pratique, Socrate ne dit toujours pas « si on reconnaît qu'une loi n'est pas une vraie loi, on peut s'y opposer ». Il ne le reconnaît toujours pas. Il ne parle absolument pas dans ce cas-là de possibilité d'un jugement individuel, du jugement d'un individu qui pourrait contester même une mauvaise loi. Donc on est toujours dans le même problème pratiquement de l'impossibilité de la désobéissance. Simplement, ce que je vous fais remarquer ici, c'est qu'on anticipe très très fort l'œuvre de Platon, puisque Platon, on le sait, va développer dans ses œuvres politiques cette idée que la bonne gestion de la cité ne peut être faite que par ceux qui ont le savoir. Quel savoir? Pas n'importe lequel. Le savoir, justement, politique. Pour Platon, il y a une techné politique. On dit souvent un art politique, mais c'est au sens d'une technique, une techné politique. Et cette techné politique, c'est la plus complexe et la plus difficile de toutes à maîtriser. Et on entend très souvent Socrate dire que, pendant toute sa vie en fait, il n'a pas cessé de dire que c'est tout de même incroyable que quand il s'agit de n'importe quelle technique ou de n'importe quelle science, on va s'adresser à un spécialiste et on n'écoutera que l'avis d'un spécialiste, on ne se souciera pas de ce que dira le premier venu. Mais pour cette science-là, qui est la plus haute, la plus responsable de toute la cité, donc la plus cruciale et en même temps la plus complexe, eh bien pour ça, on se contente de n'importe qui. C'est-à-dire pour ça, c'est une critique énorme de la démocratie, bien sûr. C'est une critique redoutable de la démocratie, puisque la démocratie, précisément, a pour principe qu'il n'y a pas de titre pour participer à la décision politique. Il n'y a pas de compétences particulières à avoir. Et comment... Alors, ça, évidemment, cette critique, elle va être prise en compte par les successeurs de Socrate. Donc, Platon va développer ça très fort dans la République et surtout dans le politique. Le politique, c'est un dialogue qui concerne l'homme politique, qui définit la personnalité de l'homme politique et qui est son art, le type d'art qu'il doit avoir. Et c'est très beau d'ailleurs, c'est un très très beau dialogue malgré cette professionnalisation qu'il prône. C'est un beau dialogue parce qu'il il montre que la cité, c'est comme un tissu, il fait ce parallèle avec un tissu, d'ailleurs on parle encore du tissu social, mais ça vient de là, cette métaphore. Une cité, c'est comme un tissu de relations entre des personnes de toutes les sortes et entre des fonctions de toutes les sortes. Et l'art de l'homme politique, l'art du gouvernant, c'est d'arriver à faire une trame parfaite avec tous ces fils différents qui doivent s'entrecroiser de manière harmonieuse. Et donc voilà pourquoi c'est vraiment une connaissance, ça demande énormément de compétences, d'habiletés. Et donc seuls quelques-uns, d'après Platon, seuls quelques-uns sont capables d'arriver à un tel savoir. Et donc vraiment, lui, il ruine en fait toute possibilité de démocratie, enfin toute justification, en tout cas, toute fondation de la démocratie comme participation de tous à la politique. En revanche, comment Aristote va corriger ça ? Comment Aristote va corriger ça ? Eh bien, en faisant une distinction précisément dans le savoir, entre le savoir théorique et le savoir pratique. C'est essentiel, cette distinction. Si on veut défendre la participation politique, il faut utiliser ça. Les savoirs théoriques, ce sont des savoirs qu'effectivement, tout le monde n'a pas peut-être les possibilités ou l'intérêt simplement, simplement la motivation d'acquérir. Pensons aux mathématiques, aux sciences naturelles, tout le monde n'a pas envie d'apprendre ça, ou n'a pas les compétences, peu importe. Mais le savoir pratique, dit Aristote, c'est tout autre chose que ça. Le savoir pratique, c'est savoir délibérer, c'est-à-dire savoir juger des arguments, savoir exprimer ses arguments propres de manière persuasive. Donc on récupère beaucoup des sophistes là. Et ça, dit-il, tout le monde peut l'acquérir. Alors, ce n'est pas nécessairement spontané, il faut une certaine éducation, mais cette éducation, elle est accessible à tout le monde. Et vous voyez que ça fait une énorme différence, le simple fait de faire cette distinction entre les savoirs. Or, précisément, c'est cette distinction que Socrate n'arrête pas de refuser. Vous voyez, Socrate n'arrête pas de dire « la vertu est un savoir au même titre que tous les autres ». Et tout le temps, il fait ses comparaisons, hein, comme on peut savoir telle chose, on peut savoir telle chose, la médecine, l'architecture, etc. Et bien de la même manière, on peut savoir la justice. Et c'est ça qu'il fallait modifier, hein, enfin, ce qu'il fallait, disons que, si on voulait dépasser son dilemme. Donc ça, c'est pour le Socrate de Platon. Vous voyez que le Socrate de Platon, on a l'impression que, voilà, il est enfermé dans une certaine contradiction et on ne sait pas comment il s'en sort. On ne sait pas encore comment il s'en sort. Alors on peut se tourner vers le Socrate de Xénophon pour voir si il y a quelque chose, une indication complémentaire ou un traitement différent de la même question. Et Xénophon, l'œuvre dans laquelle il a parlé de Socrate s'appelle « Les Mémorables ». Et là aussi, il relate différents entretiens que Socrate a eus, c'est d'ailleurs à peu près avec les mêmes personnages que ceux qu'on trouve chez Platon. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des traitements un peu différents, et surtout son Socrate à lui est beaucoup plus affirmatif. Et par exemple, son Socrate donne une série de définitions, comme si justement il les connaissait, comme s'il n'avait pas toujours ce problème à aboutir, hein, à aboutir à une définition positive. Et notamment, donc, il y a un entretien que Socrate a avec le même sophiste Hippias, dans lequel Socrate commence par donner sa propre définition de la justice. Et cette définition de la justice, elle est très simple. C'est celle qu'on a reconstituée à partir du Criton, mais qui n'était pas explicite dans le Criton, alors qu'ici, elle est explicite. Donc, le juste, c'est dikaion. Eh bien, le dikaion, c'est quoi? C'est exactement le nomimon. Donc, ce qui respecte la loi, nomos. Hein. Nomimon, c'est ce qui est conforme à la loi, nomos. Le juste est exactement ce qui est conforme à la loi, donc c'est ce qu'on vient de reconstituer. Et Hippias, au contraire, lui fait cette objection. Hippias lui fait cette objection que comment est-ce qu'on peut prendre la loi tellement au sérieux comme référent intangible du juste, alors que les lois changent tout le temps? C'est-à-dire que même ceux qui les instituent, il leur arrive souvent, quelques temps plus tard, de modifier ce qu'ils ont eux-mêmes institué. Donc, comment prendre au sérieux cette loi? Alors, la justice, quoi, elle change tout le temps, elle aussi. Et Socrate répond à l'objection en disant, si tu fais cette objection à la justice du fait que les lois changent, alors tu dois aussi refuser qu'un citoyen accepte d'aller à la guerre contre une cité, hein, étant évidemment contraint par sa propre cité à le faire, qu'il refuse de le faire au nom du fait que les alliances changent, hein, et que cette cité qui maintenant est ennemie, ben, à un autre moment, elle sera alliée ou amie. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'aller faire la guerre alors qu'on sera alliés dans quelques années. Il dit, c'est le même raisonnement. Or, l'objection pour lui est clairement non recevable. Il est clair qu'il est juste d'obéir à sa cité quand elle lui dit d'aller attaquer une autre. Il est juste d'accepter d'aller faire la guerre. Bon, en ça, il est traditionnaliste, hein. Et donc, par conséquent, on ne peut pas non plus objecter aux lois qu'on ne les respecte pas puisqu'elles changent. Ce n'est pas une objection valable. Et remarquez bien que c'est cohérent avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce que ce n'est pas la justice qui change. Le contenu de la loi peut changer. Mais puisqu'on a vu que la justice, c'était précisément le fait même d'obéir à la loi, ça ne change pas. Que la loi change ou pas, de toute façon, vous obéissez, c'est tout. Et en plus, on a vu que c'était la loi qui définissait ce qui était juste. Donc, ce qui est juste, c'est chaque fois ce qui est prescrit par la loi. Autrement dit, cette définition-ci du juste, elle ne change jamais. Vous voyez, le juste n'est pas changeant. Ce qui est juste, c'est toujours ce que prescrit la loi. Après, son contenu peut changer. Son application pratique peut changer. Mais ça n'empêche pas qu'on ait une définition toujours valide du juste. Donc Socrate défend de nouveau cette définition-là de la justice. Bon, donc c'est assez conforme à ce qu'on a vu dans Platon. Et par conséquent, Xénophon ne nous tire pas d'affaire. Parce que du coup, on a de nouveau le même problème et Xénophon insiste beaucoup justement sur l'attachement de Socrate aux valeurs morales traditionnelles et au fait qu'il était un exemple justement de pratique de ces valeurs. Donc, est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait là une contradiction ? Et que Socrate serait bien embarrassé si la loi lui ordonnait de renoncer à ses valeurs. Donc ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas en juger. Et Xénophon, d'ailleurs, donne une indication intéressante, mais qui ne nous tire pas d'affaire, une indication intéressante sur ce qui fonde alors les lois. Parce qu'on a vu, les lois ne sont pas fondées sur la justice, mais elles l'instituent. Mais alors, sur quoi est-ce qu'elles sont fondées, les lois, et comment est-ce qu'on peut justifier qu'elles changent? Eh bien, dans un dialogue entre Alcibiade et Périclès, lui-même, Xénophon, que Xénophon manifestement approuve, hein, il rapporte que ce qui fonde les lois, c'est le consentement des citoyens. C'est-à-dire que tant qu'une loi est acceptée par les citoyens, ça peut être de différentes manières selon les régimes, hein, ou bien tous les citoyens sont réunis en assemblée et bien sûr se concertent, ou bien si on n'est pas en démocratie, les citoyens peuvent manifester d'une manière ou d'une autre leur opposition, mais en tout cas, tant qu'il y a le consentement des citoyens, la loi est légitime. Elle ne peut pas, par conséquent, s'imposer par la violence. Donc ici, il y a une petite précision, une loi n'est pas vraiment une loi si elle s'impose par la violence. Et ça, c'était donc manifestement reconnu par, encore une fois, le sens commun, hein, la conception habituelle de la politique, puisque c'est mis dans la bouche de Périclès. Il me reste à dire qu'il y a peut-être une petite solution qui apparaît là aussi implicitement et en filigrane dans le texte de Xénophon. C'est qu'à un certain moment, mais sans faire aucune transition et sans du tout dire que là est une solution, hein, sans du tout peut-être même relever le problème, sans transition, Xénophon se met à parler des lois divines, justement. Donc dans ce même entretien avec Hippias. Et il dit à propos des lois divines que donc il existe des lois universelles, c'est-à-dire qu'on constate que dans tous les peuples, elles existent. Dans tous les peuples connus, elles sont en vigueur. Et c'est pourquoi Hippias pense qu'elles sont peut-être venues des dieux. Pour cette raison, il ajoute encore deux autres raisons. La deuxième raison, c'est que la première de toutes ces lois qui semblent valables partout, c'est qu'il faut honorer les dieux. Donc il semble bien que ce soit eux-mêmes qui aient instauré cette loi de leur rendre hommage. Et la troisième raison, c'est que, et ça, ça va vous faire repenser à Antiphon, c'est que ces lois-là, elles comportent leur châtiment de manière immanente. C'est-à-dire que si on y déroge, on est puni et on n'échappe pas à la punition, alors que pour les lois instituées, on a vu que leur gros défaut, c'était qu'on pouvait très bien échapper à leur punition. Il cite comme exemple, alors d'abord, qu'est-ce qu'il cite comme exemple de loi universelle et donc transcendant les lois positives? Donc la première, je vous l'ai dit, c'est d'honorer les dieux. La deuxième, c'est d'honorer son père et sa mère. Ensuite, il y a le fait de rendre les bienfaits, dont on a vu que c'était une caractéristique de la morale traditionnelle. C'était la définition même de la justice, enfin une partie de la définition de la justice dans la tradition. Et puis, il y a l'interdiction de l'inceste, hein, je pense que vous vous en doutiez. Donc, en tout cas, l'interdiction, elle est formulée comme ça, que des parents et des enfants s'unissent, hein, et fassent des enfants. Et la sanction, si on y déroge, c'est Xénophon qui le dit, hein, c'est que les enfants seront mal formés. Et alors, ce qui est très drôle, c'est la raison qu'il avance pour ça, c'est que, dit-il, il y aura un des deux qui aura dépassé l'âge naturel pour procréer. Donc en fait, le problème n'est pas tellement, si vous voulez, la relation parent-enfant dans son explication, c'est le fait qu'il ne faut pas le faire quand on est trop vieux. Voilà, parce qu'à ce moment-là, la progéniture ne sera pas bien formée. Et donc voilà la sanction immanente, si vous voulez, hein. On est immédiatement sanctionné si on déroge à cette loi. Et donc c'est aussi une preuve du fait qu'elle n'est pas instituée par les hommes, elle n'a rien d'arbitraire, elle doit avoir quelque chose de, alors, ou bien on dit naturel comme Antiphon, ou bien on dit divin. Bon, mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Xénophon, alors qu'il présente ce contraste avec les lois divines, au lieu de l'utiliser pour dire ce qui serait notre solution au dilemme de Socrate, hein, au lieu de l'utiliser pour dire ces lois-là divines pourraient constituer des exceptions qu'on pourrait opposer aux lois instituées. C'est-à-dire qu'on pourrait dire une loi instituée par les hommes ne pourrait jamais contrevenir à une loi divine, sinon, au nom de la loi divine, on aurait le droit, hein, de contester la loi humaine. Vous reconnaissez Antigone, hein, bien sûr, c'est vraiment typiquement le sujet de la pièce Antigone. Mais donc ça c'est la solution que j'annonçais. C'est-à-dire que ça pourrait être une solution pour résoudre le dilemme, comment est-ce qu'on fait avec la morale? Puisque ces lois divines, on peut constater qu'elles recouvrent à peu près ce qui était dans la morale traditionnelle. sous ce qu'il y avait dans la morale traditionnelle, on estimait que c'était quelque chose d'assez universel et non pas arbitraire. Et non pas donc relatif d'un peuple à l'autre, d'une cité à l'autre. Mais cette solution, Xénophon ne la présente pas du tout comme ça, parce que lui, après avoir présenté les lois divines, au lieu de les opposer aux lois humaines, il conclut « Puisque les dieux sont tout à fait justes et qu'ils instaurent pour les hommes des lois justes, alors nous confirmons de ce fait le rapport entre la justice et la loi. » Cette conclusion est absurde, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette conclusion est absurde, puisque... la loi humaine instituée, on doute qu'elle soit juste, alors que la loi divine, on ne doute pas qu'elle soit juste. Donc le fait que la loi divine soit en même temps loi et juste ne pose aucun problème, mais elle n'éclaire en rien le fait que la loi humaine soit aussi en même temps loi et juste. Hein. Donc ça, c'est une mauvaise conclusion. Et par conséquent, il nous reste trois hypothèses ouvertes donc sur cette difficulté hein, de l'obéissance inconditionnelle à la loi. Ou bien Socrate ne s'est pas rendu compte qu'il risquait d'être embarrassé, c'est-à-dire qu'il y avait une contradiction quelque part entre son respect inconditionné de la morale et son respect inconditionné de la loi, que ça pouvait être en opposition. Donc c'est possible qu'il ne s'en soit pas rendu compte. Ou bien il est possible qu'il ait glissé, mais de manière très très allusive dans son enseignement, l'une des deux solutions, celle qu'on trouve chez Platon, enfin qu'on reconstitue chez Platon, ou celle qu'on reconstitue chez Xénophon. Hein, donc, ou bien la solution qui consiste à dire il y a une exception à l'infaillibilité et à l'indiscutabilité de la loi, c'est si elle contrevient à une loi divine. Hein, donc au nom de celle-là, on pourra désobéir. Hein, donc ce sera une exception à l'interdit de la désobéissance. Ça, c'est la solution qu'on trouve éventuellement en filigrane chez Xénophon, ou alors la solution de Platon, c'est-à-dire Socrate dirait, enfin aurait voulu indiquer, mais de manière implicite, que tant qu'on n'est pas dans un régime où ceux qui savent vraiment ce qu'est une cité et la bonne manière de la gouverner, tant qu'on n'est pas dans un régime comme ça, on sera dans la contradiction. Et donc Socrate, en fait, aurait, reconnu, était obligé d'avouer qu'il se trouvait dans une contradiction, mais qu'elle était due à ce type de régime. Elle était due au fait que ce ne sont pas ceux qui savent qui sont au pouvoir. Et à ce moment-là, effectivement, on aurait eu vraiment une très grande continuité entre Socrate et Platon, Platon développant effectivement l'insistance sur le fait qu'il faut que ceux qui savent soient au pouvoir. Voilà. Donc, ça, c'est sur ce premier point, hein, cette question de la désobéissance. Alors, le deuxième point sera beaucoup plus court. C'est la question donc de ces prémices de la théorie des formes qu'on trouve déjà chez Socrate, donc certaines expressions qui annoncent déjà l'idée qu'il y a une notion, en tout cas de ce que Socrate cherche au plus haut point, c'est-à-dire le juste, le beau, le bon, il y en a une notion qui n'est pas relative à une époque, à un lieu ou à des circonstances données, mais qu'on peut donner en général et sur laquelle tout le monde pourrait s'accorder. C'est principalement, de nouveau, dans l'Hippias majeur qu'on trouve une expression très très claire de cette recherche. Et donc, je vais commencer par vous lire un extrait de cet Hippias majeur, donc, dont le thème principal n'est pas du tout la loi. C'était vraiment un petit passage, presque une digression que je vous ai citée tout à l'heure. Mais le thème principal, c'est le beau. Et donc, Socrate, c'est sur le beau qu'il interroge Hippias et qu'il lui demande quelle est son opinion, parce que lui est toujours très embarrassé quand il doit dire ce qui est beau. Et Socrate, il fait une double ironie là, parce que non seulement il se prétend bien entendu ignorant sur le beau pour interroger Hippias, mais en plus, il dit « ce n'est pas moi qui t'interroge, tu comprends, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'interroger et de me mettre moi dans l'embarras, alors je ne sais pas quoi lui répondre, donc je vais te demander ce que toi tu lui répondrais, donc fais comme si c'était toi qui l'interrogeais. » Donc en fait, on a ici une sorte de multiplication des niveaux où celui qui dialogue avec Hippias, c'est cette personne fictive, évidemment, hein, que Socrate invoque et qui parle à sa place. Donc, celui-là pose la question à Hippias, « Dis-moi, étranger d'Hélice, hein, parce que Hippias vient de la cité de Hélice, est-ce par la justice que les hommes justes sont justes ? Certes. Est-ce par la sagesse que les hommes sages sont sages et par la bonté que toutes les choses bonnes sont bonnes? Comment non? C'est donc par des choses, écoutez bien cette expression, c'est donc par des choses qui sont quelque chose. Car si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de juste, de sage, ni de bonne chose. Donc j'attire vraiment votre attention sur ceci parce que c'est très fort et c'est vraiment un choix. Le raisonnement ne va pas du tout de soi, c'est vraiment un choix. Quand Socrate dit donc, on a des tas de choses qui sont justes, belles et bonnes. Et on dit, elles sont justes par la justice, parce qu'elles contiennent la justice. Hein, ou des hommes sont sages parce qu'ils possèdent la sagesse ou la science. Des choses sont bonnes parce qu'elles possèdent une bonté. Et donc, dans tous ces cas, on peut retrouver la justice qui est partagée, hein, ou la bonté qui est possédée par chacune de ces choses, ou la sagesse qui est possédée par chacun de ces hommes. Et la justice, la bonté, la sagesse doivent être, dit-il, quelque chose. Si ce n'était pas quelque chose, elle ne pourrait pas rendre les autres choses bonnes ou sages ou justes. Il faut que ça existe hein, comme quelque chose. Bon, il n'y a pas d'autre mot que le verbe être, hein, c'est vraiment très, très prudent, mais c'est quelque chose qui est. Non, n'empêche que vous voyez déjà qu'on essaye de rendre indépendantes ces choses qui existent, comme si elles existaient indépendamment de toutes les choses qui les possèdent, comme si elles existaient déjà avant et qu'après on pouvait les acquérir. Voyez. Or, on pourrait dire tout aussi bien le contraire, c'est-à-dire ce n'est pas par la justice que les choses justes sont justes, c'est le contraire, c'est parce qu'il y a des hommes justes que la justice existe. Vous voyez, alors ça, ce sont deux choix fondamentaux qui, si vous voulez, caractérisent d'un côté la philosophie platonicienne, de l'autre côté la philosophie aristotélicienne. C'est exactement ça. Hein, Platon va intensifier le côté indépendant de la notion. La notion générale est indépendante de tous les cas particuliers où elle s'incarne, hein, où elle est possédée. Alors que Aristote dira au contraire, les notions générales n'existent pas ailleurs que dans les cas particuliers. C'est nous qui les repérons partout. C'est-à-dire que c'est nous qui, en voyant toute une série de choses belles ou bonnes, en tirons le concept, hein, en fabriquant le concept de beau ou de bon, et donc qui n'existe que grâce à ces choses-là et pas l'inverse. Donc vous voyez bien, les formulations ici sont très 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 orientées déjà. C'est par la justice que les choses justes sont justes. Donc c'est comme si c'était elle qui préexistait et qui donnait son caractère aux choses justes. Vous voyez ? Ça c'est vraiment, c'est très fort parce qu'on est dans un des tout premiers dialogues, or on reconnaît quelque chose d'ici déjà de très très platonicien. C'est le choix platonicien est déjà en train de se faire. Alors, je poursuis l'extrait. Oui, c'est par des choses qui sont. Hein, donc, Hippias est bien obligé de le reconnaître, puisque sinon, on lui a dit, hein, sinon les choses ne pourraient pas être bonnes s'il n'avait pas la bonté. Est-ce que donc toutes les choses belles sont aussi belles par la beauté? Puisque, je vous rappelle, ce qu'on cherche, c'est qu'est-ce que c'est que le beau ou la beauté. Donc, est-ce que toutes les choses belles sont aussi belles par la beauté? Oui, par la beauté. Qui est quelque chose, même raisonnement. Oui, mais où veut-il en venir? Donc, il, c'est évidemment, c'est ce fameux type qui interroge Socrate. Réponds-moi donc, étranger, dira-t-il l'homme en question. Qu'est-ce que cela, la beauté? Qu'est-ce que c'est cela, la beauté? Alors, Hippias demande, le questionneur veut-il savoir ce qui est beau? Socrate répond, il ne me semble pas, Hippias, mais plutôt, qu'est-ce que le beau? Donc vous voyez la différence. Est-ce qu'il veut savoir ce qui est beau ou est-ce qu'il veut savoir qu'est-ce que le beau? C'est tout différent. Et vous allez voir d'ailleurs qu'Hippias ne comprend pas parce qu'il dit « Quelle différence y a-t-il entre les deux? Tu n'en vois pas ?» Il n'y en a pas. Et pourtant, il est clair, dit Socrate, que tu en sais plus que moi. Cependant, fais attention, il ne te demande pas qu'est-ce qui est beau, mais qu'est-ce que le beau? « Ah, je comprends, dit Hippias. Je lui répondrai ce qu'est le beau, de telle manière que tu ne puisses pas être réfuté. Hein, donc, puisque lui, il donne le conseil à Socrate pour ne pas être réfuté. En effet, Socrate, sache bien que, s'il faut le dire en vérité, une belle jeune fille, voilà ce qui est beau. Donc, vous voyez bien qu'il n'a rien compris. Puisque on lui demande précisément, non, pas ce qui est beau. Une belle jeune fille, bien sûr, c'est quelque chose qui est beau, mais ce n'est pas le beau. Hein. Donc, il dit, oh, j'ai bien compris, en vérité, c'est une belle jeune fille. Bon. Alors bon, je passe une toute petite partie, et puis Socrate reprend en disant, écoute, il va m'interroger alors à peu près comme ça, il va me dire, allons Socrate, réponds-moi, toutes ces choses que tu dis belles seront belles si le beau lui-même existe. Hein? Toutes ces choses que tu dis belles seront belles si le beau lui-même existe, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et moi, je devrais lui dire que si une belle jeune fille est ce qui est beau, c'est à cause de ça qu'il y a des choses belles. Hein? Si le beau, c'est une belle jeune fille, alors c'est par la belle jeune fille que toutes les choses belles sont belles. Hein? Et donc, évidemment, voilà, on voit bien que le raisonnement n'était pas bon. Alors, la réfutation suit son cours de cette manière-ci. Les deux interlocuteurs s'accordent sur le fait qu'il y a bien d'autres choses qui sont belles, hein, par une belle jeune fille. Il y a aussi une belle jument, et puis une belle lyre, et puis une belle marmite. Alors là, Hippias, il a quand même... Bon, Socrate, avec quoi tu viens mais Socrate lui dit, non, écoute, une marmite bien faite, bien comme il faut, écoute, on peut dire qu'elle est belle, d'accord. Et donc, mais toutes ces choses, en fait, elles sont belles d'une certaine façon, mais en même temps, si on les rapporte à autre chose, si on les compare à autre chose, elles sont laides. Même la plus belle des jeunes filles, par rapport à une déesse, elle est laide. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose qui soit beau sans être laid par un autre aspect ou relativement à autre chose ? Hein, tout ça ne peut pas être le beau puisque c'est aussi laid. Ça ne peut pas être le beau par conséquent. Hein, donc le beau, il ne peut pas être en même temps laid. Alors, Hippias va explorer différentes pistes. Il propose d'abord, ah oui, puisqu'on a dit que ce qui est beau, c'est ce qui rend les autres choses belles, hein, il a retenu ça, si ce qui est beau, c'est ce qui rend les autres choses belles, alors c'est très simple, c'est l'or. Tu mets de l'or sur quelque chose, elle devient belle. Bon, alors Socrate lui répond très habilement parce que souvent dans ses dialogues, il répond à partir d'opinions communes, c'est-à-dire à partir de choses qui sont reconnues par tout le monde, et donc l'interlocuteur est vraiment obligé de dire « Ah oui, là, je dois tenir compte de ça. » Et là, en l'occurrence, il invoque l'autorité du plus grand des sculpteurs de l'époque, Phidias, et il dit « Phidias, quand il a fait la magnifique statue d'Athéna chryséléphantine, c'est-à-dire d'or et d'ivoire, il n'a pas mis de l'or partout. » Hein, il a mis de l'or à certaines places et puis à d'autres endroits c'est l'ivoire qui domine et c'est pour ça qu'elle est belle. Donc c'est pas l'or qui rend tout beau. Voilà, bon, facile à réfuter. Bon. Alors Hippias essaie une autre piste et il dit puisqu'on a dit que le beau est ce qui ne peut être laid pour personne, ni en aucun lieu ni en aucun temps, alors on va essayer de trouver ce qui de la vie générale de tous les peuples est beau. Donc on va recourir, c'est une étape importante du raisonnement, on va recourir au jugement universel. Le beau doit être assuré par un jugement universel. Mais alors le jugement que propose Hippias est un peu, vous allez voir de nouveau, un peu, retombe un peu dans le relativisme, parce qu'il dit, au fond, ce qui pour tout le monde, personne ne le contesterait, est beau, c'est être riche, bien portant, honoré, voir ses parents mourir avant soi et leur faire des belles funérailles, atteindre la vieillesse et puis être soi-même enterré avec tous les honneurs par ses enfants. Et Socrate, alors de nouveau, lui répond à partir d'une opinion tout à fait partagée, il lui dit « Mais tu blasphèmes parce que si tu prends un héros qui est fils donc, de mortel et de Dieu, il ne peut pas, lui, estimer beau que ses parents meurent avant lui et qu'il puisse enterrer l'un de ses parents qui est un dieu. Donc, pour les héros et les dieux, ça n'est pas valable. Donc, tu blasphèmes en disant ça. » Et alors, Hippias retire vite ce qu'il a dit. « Oui, c'est pas universel du tout, on n'a pas trouvé l'universel. » Donc, voilà, on écarte de nouveau une fausse piste. Alors, une autre piste, c'est l'interlocuteur de Socrate qui est censé la suggérer. Donc la personne fictive, là, qui est censée la suggérer, il revient à la possibilité que le beau soit l'utile. Bon, je vous fais grâce du raisonnement par lequel c'est débouté. Mais ensuite, il y a un autre raisonnement qui est aussi, est-ce que le beau serait ce qui est convenable ? Puisqu'on a vu, hein, à propos de l'or, il disait, l'or, il rend beau si on le met à l'endroit convenable et pas à l'endroit qui ne convient pas. Bon. Mais c'est aussi débouté. Et puis enfin arrive une dernière proposition, c'est que le beau serait le plaisir de certains sens, à savoir la vue et l'ouïe. Donc on est là dans le jugement esthétique. On arrive dans la piste du jugement esthétique. Hein. Le beau, c'est ce qui est agréable à la vue et à l'ouïe. Et donc, Ici, ça vaut la peine qu'on l'examine plus en détail, puisque c'est une des premières réflexions sur le jugement esthétique. L'examen commence par demander pourquoi les autres plaisirs qui viennent des autres sensations ne sont pas considérés comme beaux. Parce que de fait, ils ne le sont pas. On ne dira jamais qu'une bonne odeur est belle, ni qu'une bonne saveur est belle, ni même qu'un toucher agréable est beau. On ne dira pas beau dans ce cas-là, ça c'est sûr. Donc l'usage fait qu'il n'y a que deux types de sensations qu'on retient pour le plaisir esthétique. Donc, dit Socrate, on peut en conclure en tout cas que ce n'est pas en tant que plaisir que le beau est beau. Ce n'est pas parce qu'il donne du plaisir, puisque d'autres sensations en donnent aussi. Donc ça ne suffit pas comme définition. Okay. Ce n'est pas en tant que plaisir. Ce n'est pas non plus en tant que c'est un plaisir procuré par la vue, puisqu'il y en a aussi qui sont procurés par l'ouïe. Sinon, il serait exclu. Et réciproquement, ce n'est pas non plus parce que c'est un plaisir procuré par l'ouïe, puisqu'il y en a aussi qui sont procurés par la vue, qui seraient par la même exclus. Donc, dit Socrate, il faudrait trouver quelque chose que partagent les plaisirs de la vue et de l'ouïe. Quelque chose qu'ils ont en commun et que n'ont pas les autres plaisirs. Et là, on aurait trouvé peut-être ce qu'est le beau. Donc, on s'améliore dans la technique de définition, vous voyez. Et alors, je vous cite comment il le dit, parce que c'est dans l'expression que c'est intéressant. Il dit donc, quelque chose d'identique et de commun qui les rend beaux. Identique et commun, c'est typiquement des expressions de la forme générale de quelque chose. Et il ajoute, une essence, ousia, le mot ousia, qui va être le mot utilisé par Platon pour nommer ces essences transcendantes. Donc, une essence qui accompagne chacun d'eux. Donc, simplement quelque chose qu'ils possèdent en commun. Et finalement, ce qu'ils trouvent qu'ils ont en commun et que n'ont pas les autres plaisirs, c'est que ce sont les plus innocents et les meilleurs. Alors, les plus innocents au sens de les plus inoffensifs, ceux qui jamais ne peuvent causer de dommages. Parce que si vous les comparez avec les autres sensations, les autres peuvent entraîner des dommages. Une bonne nourriture peut faire du tort. Enfin, en tout cas, une qui est attirante par son agrément peut faire du tort. Même chose pour une sensation. Par son agrément, elle peut attirer et faire du tort. Mais pas les plaisirs esthétiques. Ça ne vous fait jamais de tort. Ce sont les seuls plaisirs qui sont totalement inoffensifs, qui n'apportent jamais de mal. Et donc, ce serait par là qu'ils sont beaux. Ce serait ça le beau. Et remarquez que ça, c'est vraiment, ça va être repris à l'époque moderne sous la forme de le jugement universel de beau se caractérise par le désintéressement. Ce n'est pas intéressé. Le plaisir esthétique n'est pas intéressé, alors au sens, dans un sens précis d'intéressé, bien sûr, parce que Nietzsche a eu beau jeu de dire que bien entendu, tout plaisir esthétique est très intéressé, mais bon, intéressé d'une autre façon. Il n'est pas intéressé du point de vue strictement biologique, c'est-à-dire que ce sont deux plaisirs qui n'apportent rien aux besoins physiologiques, aux besoins biologiques, aux besoins animaux. Ça ne satisfait pas nos besoins naturels. Un plaisir esthétique, musical ou pictural n'apporte rien à nos besoins naturels et les animaux n'en ont absolument pas besoin. Donc c'est en ce sens-là que déjà Socrate propose une spécificité du beau. Donc il arrive déjà à disons, cette détermination, cette définition quand même assez précise du plaisir esthétique. Et pour simplement confirmer ce type d'expressions qui sont utilisées. Je vais encore juste avoir un recours rapide à un passage de l'Euthyphron. On avait déjà vu l'Euthyphron, c'était ce dialogue où Socrate parle de la piété avec un devin. Et comme il lui demande la même chose, Euthyphron commet la même erreur que Hippias. Il lui demande « dis-moi ce qu'est la piété » et Euthyphron n'arrête pas de lui citer des exemples de piété ou des effets de la piété sur les hommes pieux, etc. Mais il n'arrive pas à dire ce que c'est. Et donc, de la même façon, Socrate lui dit ceci. « Rappelle-toi donc que je ne t'ai pas invité à m'apprendre une ou deux de ces nombreuses choses pieuses, donc des exemples, mais ce caractère même par lequel toutes les choses pieuses sont pieuses. Et ce caractère même, c'est autotoeidos. » Donc, « auto », c'est le « même », l'adverbe « même », to eidos. Et alors l'eidos, c'est le terme qui sera utilisé par Platon pour nommer ces formes. Et juste après, il ajoute, car tu as affirmé quelque part que c'est par un aspect unique, et cette fois-ci, ce mot aspect, c'est idea. Et donc vous avez tout ce qu'il faut hein, pour faire une théorie platonicienne. Vous avez eidos, ousia et idea. Tout y est. Hein. Donc je rappelle que idea, ça, bien sûr, ça a donné le terme idée au sens platonicien du terme, c'est-à-dire au départ, ça veut dire aussi bien eidos que idea, ça vient du verbe voir. Hein. Donc c'est ce qu'on voit d'une chose au départ. Donc c'est son aspect hein, ou une caractéristique de la chose qui est visible. Donc au départ, c'est quelque chose d'extrêmement matériel, sensible, immanent. Et c'est vraiment, Platon va introduire une nouvelle signification de ces deux termes qui sont des termes courants. Ah, donc ces deux termes qui couramment veulent dire un aspect visible d'une chose, il va en faire justement l'aspect essentiel, hein, d'ousia, l'aspect d'ousia, qui n'est justement, dont il va justement dire qu'il n'est plus visible, qu'il ne sera plus visible. Enfin, la notion en tant que telle n'est plus visible. Donc, bien entendu, le beau est visible dans chacune des choses belles, mais le beau lui-même, avec le auto, hein, qui sera progressivement traduit par en soi. Mais en soi, c'est une expression qui est un peu mystérieuse, je veux dire, on ne voit pas directement ce qu'elle veut dire, mais si vous dites lui-même, le beau lui-même, qui est plus littéral, ça, on comprend bien la différence entre ce qui est beau et le beau lui-même. Le beau lui-même, c'est ce qui n'est que beau. Hein, c'est ce qui n'est pas une autre chose qui, en plus, est belle. Non, c'est ce qui n'est que beau, que ça. Donc, on cherche vraiment quelque chose qui, bon, qui est séparé de tout le reste, hein, qui est indépendant de tout le reste. Donc, ça dit vraiment bien cette séparation que Platon accomplira, mais que, je voulais vous faire remarquer ça, qui est déjà vraiment ici assez formulé assez précisément. Hein, donc on avance vraiment vers ça. Alors, pour terminer cet extrait, eh bien, apprends-moi ce qu'est cette forme-là, ce nouveau idéa, pour qu'en la considérant et en l'utilisant comme modèle, et le modèle, c'est le mot paradigma, le paradigme, en l'utilisant comme modèle, je puisse dire ce qui est elle. Je puisse dire que ce qui est tel dans ce que toi ou un autre fait est pieux et que ce qui n'est pas tel ne l'est pas. Donc c'est le modèle, hein, la notion, qu'il n'appelle pas encore notion, mais qu'il appelle cette forme, cet aspect, cette caractéristique commune, va nous servir de modèle pour pouvoir dire, par rapport à ce modèle, est-ce que ceci est pieux, est-ce que ceci est beau ou pas. Et voilà, c'est aussi exactement ce que Platon dira. Hein, la forme, c'est le modèle par rapport auquel tout le reste sont des copies. Hein, si vous voulez, toutes les choses qui les possèdent sont des copies. Et voilà, j'en ai fini avec cette présentation de Socrate. Alors, comme vous voyez, il y a encore énormément à dire, en tout cas sur l'évolution progressive des dialogues socratiques vers des dialogues platoniciens. Et j'espère quand même vous avoir montré que, en fait, on ne peut pas mettre une frontière très claire au dialogue qui serait vraiment la théorie de Socrate et ceux qui deviennent la théorie platonicienne, puisque aussi bien sur le premier thème, celui de l'obéissance aux lois, que sur le deuxième thème, celui de la séparation progressive des formes, on voit bien qu'il y a du Platon dès le départ. Il y a du Platon dès le départ, manifestement. Voilà. Donc, on ne peut pas démêler où Socrate voulait exactement en venir. Mais en même temps, par cette comparaison avec le Socrate de Xénophon, on voit aussi que ce qu'on voit comme les leitmotifs hein, qui reviennent tout le temps dans les entretiens socratiques, ça évidemment, ça, c'est Socrate. Merci.
Oui, évidemment, dans la mesure où Socrate a rien laissé comme écrit, c'est ouvert à la discussion, évidemment. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit, on a le principal commentateur, c'est son élève et son continuateur, et qui, dans une certaine mesure, l'instrumente pour amener à sa théorie. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui soient compétents, lui si possible, pour diriger un pays, et donc ça aboutit à l'aristocratie, ce qui fait que, par exemple, Aristote n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions, et c'est ce que tu vas sans doute dire dans l'année prochaine. En tout cas, bon, là, on se trouve devant un problème, l'interprétation. Et l'interprétation, que ce soit Xénophon ou que ce soit Platon, c'est quand même à décharge, c'est un positif à l'égard de Socrate. Est-ce qu'on pourrait défendre une opinion vraiment, on pourrait dire, sulfureuse, c'est-à-dire complètement bizarre, que je n'ai jamais vu d'ailleurs, nulle part, ça serait de faire une vision de Socrate manipulateur. C'est-à-dire que Socrate, et là je ferai un parallèle, on le présente toujours, je ferai une interprétation à charge, si tu veux. Ça je ne l'ai jamais vu, parce que finalement, Socrate c'est le modèle du philosophe. Donc ça serait amusant, dans le monde moderne, et je vais faire une grande comparaison qui est un peu osée, entre Socrate et Sarkozy. Il se trouve devant une situation vraiment insoluble. C'est-à-dire qu'il a, bien qu'il ait fait la guerre, il a accepté les lois de son pays, il a accepté les dieux, bien qu'il n'y croit pas beaucoup, néanmoins, il remet tellement en question les choses qu'il y a un mouvement de la population qui se crée à cette époque à Athènes et qui fait qu'on le considère comme pervertissant la jeunesse. Or, c'est exactement l'inverse de ce qu'il croit faire et qu'il veut absolument prouver. Et donc, il se trouve, s'il accepte, alors il se trouve devant un coin, c'est devant un choix draconien, ou bien il meurt, et de toute manière, il ne peut pas s'exprimer, ou bien il fout le camp, il est expatrié. Or, à cet âge-là, il a 70 ans, si je peux me souvenir, et donc il a une fin de vie, et il se dit, je vais faire un super coup de com'. C'est-à-dire qu'il se dit, je vais me suicider. Et au lieu de me suicider avec un revolver ou avec une arme ou je ne sais pas quoi, je vais les faire me suicider. C'est-à-dire que je mets au pied du mur mon jury, c'est-à-dire que quand je dirigeais des thèses, je disais surtout aux étudiants, surtout n'attaquez pas, ne fasse le jury en le mettant en question, parce que là, vous êtes foutu. Et c'est exactement ce que fait Socrate. C'est-à-dire qu'il renvoie l'analyse sur le jury en disant, vous voulez me juger, moi je vais vous montrer ce qui est faux dans votre attitude. Et donc, à ce moment-là, il se suicide. Et à partir de là, la postérité pour lui, parce qu'il laisse une telle impression, au lieu de partir comme un malpropre, en reconnaissant ses torts et en étant le gars qui a été banni de la mère patrie, eh bien, il meurt dans la gloire, et depuis 2700 ans,
oui, mais alors Sarkozy, pourquoi il ne s'est pas suicidé?
Mais il va revenir. Sarkozy, il ne veut pas mourir. Il va revenir. Mais c'est un manipulateur aussi.
Ah oui, ça c'est sûr. Non. En fait, je pense que c'est une... Je pense que c'est une suggestion qui non seulement est pertinente, mais même trouve certaines attestations dans les textes, parce que dans le Criton, justement, Socrate dit effectivement que s'il s'enfuit, il restera dans la postérité comme quelqu'un qui a été lâche et qui a été injuste, alors que s'il affronte la mort, il restera dans la postérité avec tout l'honneur et la gloire d'avoir été juste. Donc c'est même, il est conscient, en tout cas, de travailler à son... Alors ça, c'est Platon qui l'écrit, mais il faut dire que ça correspond quand même bien à l'idéal héroïque de la Grèce. Je veux dire, c'est assez, tout le monde est assez pétri de... La gloire est encore, l'honneur enfin, et y compris l'honneur posthume, est encore une valeur importante, quoi, quelque chose qui vraiment peut motiver une action. Donc effectivement, il dit d'ailleurs aussi qu'il parlerait peut-être autrement s'il n'avait pas 70 ans, mais bon là... Ouais, donc je pense que c'est tout à fait pertinent. Et ce n'est pas franchement manipulateur, puisque c'est avoué, et c'est en quelque sorte, ça correspond assez bien à ce que pouvaient entendre ses contemporains. Mais c'est vrai que l'idée que les martyrs peuvent bien fonder des religions, c'est connu. c'est vrai que, bon, en même temps, s'il y a d'autres gens qui n'ont rien écrit, je pense par exemple à Plotin, et qui n'ont pas eu de disons, ce, cette péripétie aussi dramatique et qui pourtant sont passées à la postérité grâce à d'autres qui ont témoigné. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une condition indispensable, ouais, mais enfin c'est vrai que... Oui. Enfin, ceci dit, dans les séances précédentes, on n'a quand même pas fait que l'éloge de Socrate. Je veux dire, on a vu aussi qu'il n'hésitait pas du tout à faire des raisonnements sophistiques, qu'il avait pas mal de côtés bien réactionnaires, c'est-à-dire réactionnaires au sens où la tradition morale l'était, hein, et qu'il l'adopte. Bon. Donc, je pense que je ne suis pas sûre que Socrate soit vraiment une statue, que Socrate soit tellement sur un piédestal nécessairement toujours.
Christine. Pour son époque, remarque quand même, si. Peut-être pour son époque, si, quand même. Il était avant-gardiste par rapport à son époque, quand même, un peu.
Il était très original, très original, et même intempestif, etc. Oui, oui, bien sûr. Mais il n'était pas que l'objet d'éloge. Attends, parce qu'il y avait Christine.
Je voulais savoir si l'image de Socrate, elle n'avait pas changé, s'il avait si. Au moment de sa mort, il n'avait pas cette figure qu'on lui accorde maintenant. Et donc, ça remet un petit peu en cause cette.
Oui, en fait, on sait qu'il y a eu plusieurs apologies de Socrate écrites par des personnes différentes dans les années qui ont suivi la mort de Socrate. Donc, ça veut dire, dans les années rapidement après. Et ce qui donne en tout cas l'impression que beaucoup de gens étaient outrés par cette condamnation et voulaient rétablir l'honneur de Socrate, rétablir la vérité sur Socrate. Ça a été un événement tout important, public, et beaucoup de gens ont écrit, il y a eu tout un mouvement autour de cette condamnation. Bon, voilà, c'est tout ce qu'on a.
Il a culpabilisé la justice.
Oui, mais en même temps, oui, tu as raison. Oui, c'est sûr. Il a culpabilisé. Enfin, je veux dire, il a mis en question la capacité de jugement des tribunaux. Et si tu veux, d'une certaine manière aussi, pour reprendre l'idée d'une habileté de sa part, ça prouvait aussi que ce qu'il avait toujours dit contre la démocratie, il le montrait par son propre exemple, c'est-à-dire que c'est un tribunal démocratique qui le condamne, parce que c'est des gens qui se trompent, qui n'ont pas la compétence pour juger. Bon, c'est pas pour ça qu'un tribunal professionnel aurait mieux jugé, c'est pas la question, mais c'est bon.
Il lui met face à une conscience lourde, en fait, parce qu'en fait, lui, il meurt en justice, quelque part, il accepte la justice, et par contre... Le fait que les juger devient leur responsabilité. Et sa mort devient leur responsabilité.
Oui, c'est vrai. Alors en même temps, ce qui raconte aussi le fait qu'il s'était fait énormément d'ennemis reste vrai. Il y a des tas de gens qui ont dû se sentir débarrassés avec plaisir de Socrate. C'est vrai qu'il a humilié et déconsidéré beaucoup de gens. Donc, les avis étaient très partagés sur la personne de Socrate. Et c'est vrai aussi que cet acharnement contre la démocratie, qui est un acharnement intelligent, c'est-à-dire qu'il met la démocratie en question dans ses fondements même, en disant que ça ne peut pas marcher parce que les hommes n'ont pas le savoir. Cet acharnement contre la démocratie... fait comprendre aussi que la démocratie les jugeait négativement. En fait, on dit toujours, c'est quand même étonnant que ce soit la démocratie qui ait tué Socrate, mais non, Socrate n'était pas du tout un démocrate. Alors même s'il en respectait les formes, conformément à sa morale, justement, il en respectait parfaitement les formes, mais en fait, il n'était pas du tout convaincu par ce régime et il ne se privait pas de le dire. Donc,
c'est un grand argument, pour comprendre
l'acharnement du tribunal.
On a condamné Socrate.
Oui.
Parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu étonnant. Et si c'est le système même qui le remettait en question, on comprend mieux.
Oui, alors ça n'est pas apparu directement dans les chefs d'accusation, ça n'apparaissait pas tel quel. Et c'est plutôt par des moyens détournés qu'on dit oui, mais en fait, vous m'accusez parce que je. Voilà,
Il part victorieux et en plus, il reste aussi dans sa théorie que l'injuste, les idées injustes rongent l'esprit et donc, quelque part, il les laisse quand même devant leur châtiment. propre.
Tout à fait, et il est cohérent, comme j'entends, oui, c'est ça. Il reste, oui, c'est ça, il meurt juste, enfin, d'après sa conception de la justice, et il est parfaitement cohérent jusqu'au bout avec ses idées, quoi. Donc c'est en ça qu'il a été un modèle, hein. C'est en ça qu'il a été tellement admiré historiquement, c'est parce que c'est quelqu'un de tellement intègre, de tellement conforme, enfin, qui conforme tellement son action à ses idées, etc. Bon, c'est, bah, ça, c'est admirable.
Je pense qu'il devait être aussi dans une position de jouissance pour, soutenir aussi cette place-là et accepter.
Je pense que c'est possible, effectivement, de mettre. Oui, parce que quand on met une certaine valeur au-dessus même de la vie, c'est possible, effectivement, d'en jouir même au risque de la vie.
Est-ce qu'il avait laissé des écrits au
Crète ? Non, aucun. Aucun.
Ça pourrait être un mythe avant d'être Sarkozy.
C'est drôle quand même.
Non, c'est pas un mythe parce qu'il y a. Oui. Bon, c'est pour ça qu'on confronte quand même différents témoignages. Il n'y a pas que Platon qui a parlé de Socrate, il y a d'autres. Donc, on a évoqué Xénophon, Aristote. Aristophane, bien sûr, le poète comique, et puis bon, il y a d'autres traces de Socrate. On sait que c'est pas un personnage fictif, et on sait aussi, disons que, en gros, l'activité qu'il avait, c'est bien celle qui est décrite dans les dialogues. Donc ça, tout de même.
Il a écrit combien de temps après la...
Il avait à peu près 28 ans quand Socrate est mort, et il a commencé à écrire tout de suite après. Pardon, il y avait Jean.
Une chose qui me gêne sur le. Qu'est-ce qu'une vraie loi ? Enfin, ce point-là me gêne un peu dans la démonstration d'Hippias. Comment on peut déterminer que cette loi est une vraie loi et l'autre est une fausse loi ? Au nom de quoi ?
Et oui, justement, mais c'est pour ça que c'est pas accepté finalement par Socrate. Alors, attends, il y avait deux. Ça apparaissait à deux moments. Donc, je reprends le dans l'Hippias de Platon, hein, dans l'Hippias de Platon. Donc, Hippias dit donc qu'il y a des lois qui sont nuisibles. Socrate dit alors, ceux qui font des lois nuisibles pour la cité se trompent sur la loi. C'est-à-dire qu'ils se trompent sur le fait qu'une loi en elle-même, par définition, doit être quelque chose de utile pour l'intérêt général, consacré à l'intérêt général. Et donc, il se trompe en faisant une loi qui n'est pas consacrée à l'intérêt général. Donc, par conséquent, ce n'est pas une vraie loi, parce qu'ils édictent sous le nom de loi quelque chose qui n'en est pas une. Donc, si on met dans la définition même de loi, dans la notion même de loi, le fait de viser à l'intérêt général, alors... ce qui ne le correspond pas à cette définition n'est pas vraiment une loi. Et pourtant, alors pas vraiment une loi, donc je pense que dans l'opinion courante, hein, dans l'opinion courante qui dit qu'il y a des mauvaises lois, il y a une tendance à la désobéissance, justement. Hein, il y a une tendance à dire, par conséquent, il est légitime de désobéir si on estime qu'une loi ne vise pas l'intérêt général. Et c'est pour ça qu'il y a des séditions, des oppositions civiles, enfin bon, il y a des tas d'événements de lutte sociale, enfin bon... contre les lois instituées. Donc ça, c'est bien la preuve que... Il y en a qui disent, effectivement, ça n'est pas respectable.
Et de la majorité.
Oui, général, c'est plus que la majorité. En principe, et c'est ça, et c'est pour ça aussi que l'idée de savoir, hein, de vraiment d'avoir un savoir politique est compréhensible seulement si on... dit bien que l'intérêt doit être général, c'est-à-dire que quelqu'un doit tenir compte de tout le monde. Tout le monde doit être contenté, tout le monde doit être à sa place, à la place qui lui convient. Tout le monde doit être satisfait du sort qu'il fait. Ça doit convenir à ce qu'il peut faire et à ce qu'il veut faire. C'est ça hein, qu'il imagine dans son tissage. Donc, oui, c'est vraiment l'intérêt général.
C'est pas évident à déterminer cet intérêt général.
Ah ben ça, je veux bien croire.
Ça a été cité, le plus utile, ça a été cité tout à l'heure, le plus utile est plus conforme à la loi que le moins utile.
Ouais. La loi qui l'emporte de la enfin du plus positif, quoi.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la critique que fait Socrate de la démocratie et la question des lois.
Eh bien oui, mais
non. Dans un système tyrannique, la loi ne peut pas répondre à l'intérêt général, elle répond à l'intérêt du tyran, quoi, la vie.
Oui. Alors, il y a un passage dans les Mémorables de Xénophon où Socrate fait une différenciation entre les régimes sur la base du critère est-ce qu'ils gouvernent par des lois ou bien par l'arbitraire du dirigeant. Et il fait surtout une distinction, justement, entre la royauté et la tyrannie sur ce point. Un roi, parce qu'en fait, s'il doit faire la distinction, c'est justement qu'elle n'était pas évidente, parce que pendant tout un temps, on appelait aussi bien un roi que tyran, un monarque, quelle que soit la manière dont il gouverne, qu'il soit apprécié ou pas. Donc, si vous regardez, par exemple, le titre de la tragédie de Sophocle, Édipe roi, c'est Édipe Tyrannos. Et Édipe n'était pas un tyran. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il y a eu une évolution des termes, tels qu'à un certain moment, Tyrannos s'est spécialisé dans le mauvais monarque et Basileus, le roi, dans le bon monarque. Et le bon, c'est celui qui édicte des bonnes lois et respecte lui-même ses lois. Donc, ses lois ne sont pas simplement le produit de son arbitraire, alors que le tyran, bien. Donc là, il départage les deux. Après, donc dans ce passage où il parle des régimes, il évoque aussi d'autres régimes. Il cite l'aristocratie, la ploutocratie, donc le pouvoir des riches, pouvoir censitaire en fait, et la démocratie. Mais là, il ne les distingue que par le type de gens qui gouvernent. Et il ne dit pas si ce sont des régimes qui ont l'habitude de respecter, enfin, d'être basés sur des législations ou pas. Le type de gens qui gouvernent, donc aristocratie, voilà, c'est les grandes familles traditionnelle, la plutocratie c'est censitaire, c'est seulement ceux qui ont un certain revenu, et puis la démocratie c'est tout le monde. Donc là, c'est dommage qu'il l'applique pas, mais Platon va le faire plus tard, hein, il va reprendre cette classification et dire voilà, il y a d'un côté des bons régimes, une bonne monarchie, une bonne aristocratie, une bonne il dit pas démocratie dans ce cas là il dit politeia, alors, politéia, c'est difficile à traduire. Constitution, disons, voilà, constitution. Et puis, une mauvaise, et ce qui les distingue, bonne et mauvaise. Donc, ce n'est pas le nombre de gens qui gouvernent, c'est est-ce que ce sont les lois qui ont l'autorité, ou bien c'est le bon vouloir des gouvernants.
Le mot république,
voilà, alors quand on traduit par république, c'est politeia. C'est politeia qu'on traduit par république. Et on le fait pourquoi? Parce que Cicéron, qui a imité autant qu'il pouvait, c'est-à-dire mal, mais enfin qui a imité les Grecs, et particulièrement Platon, il a écrit une Res Publica, qui est une copie de la Politeia de Platon. Et donc, bon, la Res Publica, c'est vraiment romain, quoi. C'est vraiment, la République, c'est vraiment romain. Et on voit bien que c'est une autre origine que tous les régimes grecs, en fait. La République, hein, c'est vraiment la chose publique, avec son évolution aussi, enfin, je veux dire, l'organisation politique romaine, elle a évolué au cours des siècles, mais avec cette idée de la patrie, ce envers quoi tout le monde se dévoue, ce qui... Et donc, finalement, la question du régime était très secondaire dans cette idée de République romaine. Voilà. Voilà. Elle pouvait changer de forme tout en continuant à s'appeler République, ça n'avait pas d'importance. Alors que chez les Grecs, on passe d'un régime à l'autre. C'est-à-dire, quand on change la constitution, ça devient un autre régime. Donc je crois que République, c'est une mauvaise traduction pour Politeia. Mais elle est passée dans l'habitude.
Et est-ce que dans son esprit des lois, il fait référence à une loi suprême, entre guillemets, sans la nommer, à laquelle toute loi devrait être conforme ou pas? Il n'y a jamais une comparaison de la constitution chez nous, je veux dire, où toute loi doit être conforme à la loi suprême, entre guillemets, qui est la Constitution. Est-ce que ce type de référent... Parce qu'en fait, ce qu'il a l'air de dire, c'est que toute loi est conforme à la loi. À partir du moment où elle n'est pas imposée par la violence, toute loi, il ne la juge pas, en fait. Au contraire, mm-hmm. Il dit que si on la conteste, on la détruit, la loi. Donc,
ouais.
En quelque sorte, il ne porte aucun jugement sur la loi.
Exact.
Puisque, bon, puisque tu l'as dit toi-même, il y a des changements, les lois sont nouvelles, etc., etc. Mais est-ce que dans son esprit, il y a quelque part une loi suprême qui fait que toutes les lois, même si elles sont successives, elles ont une référence commune?
Alors, en fait, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. C'est vrai que Socrate, comme en fait tous les Grecs de son époque, acceptait parfaitement le relativisme des lois. Hein. C'était quelque chose de complètement répandu, c'est-à-dire que ce qu'il faut respecter, c'est la loi de la cité où on est, et on ne les compare pas les unes aux autres. Si, on peut les comparer, mais on ne va pas appliquer les lois de Sparte quand on est à Athènes, et réciproquement, même si on estime qu'elles sont meilleures. Voilà. On se conforme à la loi de l'endroit où on est. Ça, c'est vraiment l'opinion générale, et c'est celle de Socrate aussi. Maintenant, chaque cité a aussi sa constitution. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre la constitution qui décrit l'organisation fondamentale de la cité, donc dans quelle instance se prennent chacune des décisions, hein, donc comment est-ce qu'on constitue les tribunaux, comment on constitue l'assemblée, comment on constitue les conseils, les magistratures, lesquelles existent, comment on les désigne. Donc tout ça, c'est la constitution. Chaque cité avait sa constitution. Et elles étaient toutes différentes. Donc, et par rapport à cette constitution, évidemment, toutes les lois qui viennent s'ajouter après, qui réagissent peut-être un peu plus à des choses circonstancielles, ne peuvent pas, évidemment, contredire la constitution. Donc, la constitution est, comme maintenant, plus fondamentale que toutes les lois qui viendront ensuite. Et donc, quand Socrate parle en général de la loi, ça englobe aussi bien la constitution que toutes les lois qui peuvent être décidées à l'occasion de tel ou tel événement. C'est tout ensemble. Mais c'est vrai qu'il y en a il y a une constitution qui est fondamentale, quoi. Alors, à côté de ça, alors, la seule chose qui soit, justement, qui dépasse le stade de la cité, ce sont ces fameuses lois universelles, hein, qu'on appelle parfois les lois non écrites, même si ce n'est pas exactement la même chose, parce que des lois d'une cité peuvent aussi ne pas avoir été écrites. Hein. Mais donc, ces fameuses lois universelles, qu'elles soient naturelles ou divines, ça, c'est vraiment la seule chose qui soit transversale aux cités.
Il y a un aspect auquel c'est Colette et sa jouissance là, qui m'y avait pensé, et aussi ce que vient de dire Momo, il y a quand même un aspect, je ne sais pas si c'est très important, je ne sais pas si c'est primordial dans la problématique de Socrate, mais quand même il était acharné, et il soutenait que c'était quand même ce brave Apollon et l'oracle de Delphes qui lui avait pas intimé l'ordre, mais enfin c'était sa mission d'accoucher les Athéniens. Alors je ne sais pas exactement avait dit l'oracle, mais ça le tenait, ça. Hein.
Oui.
Ça fait un peu contradictoire avec ça. On l'imagine assez indifférent aux dieux, mais là il y a peut-être assez indifférent, disons, dans une acceptation. Convenable de la loi des dieux de la cité, disons. Hein. Mais quand même, son rapport à l'oracle d'Apollon est particulier.
Voilà, ben là aussi, il y a deux choses distinctes dans ce que tu dis. Donc, d'une part, c'est vrai que il ne faut pas confondre cette mission divine qu'il présente avoir reçue d'Apollon, qui est évidemment une invention, hein, mais enfin bon, il ne faut pas confondre cette mission-là avec une loi divine, hein, parce que bien sûr, Apollon n'a en rien édicté une loi. Là. Socrate ne suit pas une loi divine, c'est quelque chose comme un signe qui lui a été confié en propre individuellement. Donc c'est tout à fait autre chose que les lois divines, donc ça, je pense que ça n'entre pas tellement en ligne de compte dans cette question-ci. Si ce n'est que, dans son apologie, il dit au tribunal que puisque cette mission vient d'Apollon, ce ne sont pas des hommes qui vont l'en détourner. Ça, il le dit. Mais à ce moment-là, il ne parle pas des lois, il parle des hommes. Donc là, de nouveau, il évite la confrontation entre Apollon et les lois, quand même. Mais pour la deuxième chose, par contre, que tu dis, attends, c'était...
sa relation à Dieu.
Voilà, exactement. Mais ça, c'est important parce que c'est aussi c'est la question sur laquelle le Socrate de Platon et de Xénophon diffèrent le plus. C'est sur cette question-là. Parce que chez Platon, on voit toujours Socrate qui veut épurer la religion traditionnelle. Donc, c'est pas du tout qu'il est non-croyant. Pas du tout. Hein, il est toujours présenté comme croyant. Mais justement, il est plus exigeant vis-à-vis de sa croyance, c'est-à-dire qu'il veut croire à quelque chose de parfait, et donc il veut que la représentation des dieux soit orientée vers la perfection. Ça, c'est chez Platon. Mais chez Xénophon, en fait, Socrate est un croyant beaucoup plus banal, beaucoup plus ritualiste, qui respecte tout, qui fait ses petits sacrifices. Donc, tout ce qu'il critique dans le Typhon de Platon, en fait, il le fait chez Xénophon. Xénophon insiste sur le... Mais c'est peut-être, on s'est dit, mais c'est peut-être justement pour le disculper de l'accusation qui l'a condamné que Xénophon insiste lourdement sur ces aspects-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le sacrifice du coq à Asclépios, il y a aussi... voilà, il semblerait que Socrate était en fait très respectueux des rituels et de... Bon, alors, est-ce que ça reflète une vraie croyance ou pas? Oui.
Je trouve qu'il a quand même une petite contradiction. Je ne sais pas, on dit que Socrate était le précurseur du cosmopolitisme.
Je ne vois pas pourquoi on dit ça. C'est-à-dire que sa recherche d'universalité, sa recherche d'universel, elle est intellectuelle, enfin, elle est morale aussi, mais c'est une recherche de notions. C'est pas Socrate n'a pas particulièrement cherché ce qui rassemblait tous les hommes. C'est pas tellement quelque chose de. Par contre, les stoïciens l'ont fait et les stoïciens se réclamaient beaucoup de Socrate. Mais bon, ça devient très indirect, quoi. Non, je ne vois pas pourquoi on dit ça, en fait. Il faudrait peut-être voir pourquoi, à quoi ça fait référence. Je ne sais pas.
C'était plutôt l'ostracisme.
Oui, enfin bon, l'ostracisme régnait, mais ce n'est pas lui qui le prônait nécessairement.
Enfin, comme il a dit, quand même, il y a quand même une incohérence dans son parcours, enfin, il me semble. Parce que d'un côté, il dit qu'il faut respecter les lois, etc., qu'on doit accepter la règle commune. Et donc, il doit accepter le jugement. Et puis, de l'autre côté, il remet continuellement tout son discours, c'est de remettre en question ce qui a été établi et d'utiliser la raison. Donc, il faut choisir. Et en réalité...
Et d'utiliser la raison.
Oui, enfin, en tout cas, il faut remettre en question les opinions établies qui ne sont pas réfléchies, qui ne sont pas bien posées. Alors, la plupart des gens n'ont que les opinions parce qu'ils sont dans ce milieu et c'est tout. Et, ils ne réfléchissent pas vraiment profondément sur ce qu'ils font. Or donc, il y a une contradiction, il me semble, entre ce point de vue d'accepter l'ordre établi et puis de le remettre en question en chaque fois en allant aux sources, parce que ça peut aboutir à la négation de l'ordre établi. Et donc, à mon avis, son procès, c'est un piège, et c'est pour ça qu'il en sort par le haut, c'est-à-dire que normalement, il était piégé, parce qu'il était obligé d'accepter le jugement du tribunal, qui était la loi de son pays, qu'il a déjà toujours reconnu, et puis de l'autre côté, il était banni, ou il était tué. Et donc, en attaquant et en mettant en accusation le jury, c'est-à-dire l'assemblée des citoyens, là, il obéit à la loi tout en remettant en question les gens. Donc c'est très malin comme système. En réalité, il sort de l'incohérence.
Oui, alors, attention, parce que quand on dit Socrate remettait en question l'ordre établi, pas tellement. Il reprochait à la tradition morale, à la tradition donc des valeurs et de l'éducation qu'on transmettait, il lui reprochait de ne pas avoir de quoi se justifier, c'est-à-dire de connaître tellement peu la réalité de ce qui était transmis, de ne pas savoir pourquoi on transmettait ça et ce que voulait dire exactement ce qu'on transmettait, que du coup, ça n'avait pas aucune force. C'est-à-dire que c'était trop facilement contestable, justement. Ce qu'il aurait voulu, c'est que ce soit moins contestable. Et donc, c'est plutôt l'ordre établi du côté de la tradition morale. Par contre, la loi, pour la loi, il fait évidemment, ce qui est crucial, c'est cette distinction entre le fait formel de la loi, c'est-à-dire le fait qu'il y a une loi et que par définition, c'est ça qui est juste et qui doit être respecté. Et là-dessus, on ne se prononce pas sur si c'est la loi de telle cité ou de telle autre, hein, ou si elle nous paraît bonne ou pas bonne. On ne se prononce pas dessus, c'est en tant que loi qu'elle est juste et qu'il faut la respecter. Et donc, c'est ça qui commande toute sa soumission à la condamnation. Et d'autre part, le fait qu'il ne se privait pas, évidemment, de critiquer ce qui se passait dans sa cité, c'est-à-dire les mauvaises décisions, les gens qui étaient incompétents pour les prendre, etc. Donc, ce n'est pas une contradiction. Quoi. C'est vraiment, je pense qu'il agit à des niveaux différents à chaque fois.
Est-ce qu'on sait pourquoi il n'a pas laissé d'écrit?
Non, on ne sait pas. Il faut dire que c'est une époque où on n'écrivait pas beaucoup. C'est une culture encore orale. On assiste vraiment à la transition. C'est plutôt au cours du siècle suivant où les gens se mettent à écrire beaucoup. Mais c'est encore très peu le cas. Et, On a quelques discours, enfin, c'est pour ça aussi qu'on manque de documents, hein. C'est pas seulement parce qu'ils sont perdus, c'est aussi parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient écrits. Et donc on a... il n'y avait pas beaucoup de matière non plus pour écrire, je veux dire, on en était au début de support un peu... Enfin bon, il n'y a pas encore... On écrivait encore... les enfants, quand ils apprenaient à l'école, c'était sur des tablettes de bois enduites de cire. Hein, on faisait fondre de la cire, comme ça on pouvait écrire et puis refaire fondre et réécrire. Bon, mais c'était pas pratique tous ces supports. C'était voilà, on avait des papyrus, mais c'était très précieux, très rare. Enfin bon, voilà. Il y a aussi tout ça, quoi. C'était pas une démarche normale d'écrire. Voilà. C'était pas une démarche normale d'écrire. Fallait vraiment. Par exemple, Platon, la raison pour laquelle il a autant écrit, c'est probablement parce que lui, il a institué une école avec des élèves et qu'il fallait que les élèves, à un moment, puissent disposer de ces leçons indépendamment de lui, quoi. Voilà, mais il y a toute une discussion, justement, il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Phèdre, qui est consacré à une évaluation des avantages et des inconvénients respectifs de l'oral et de l'écrit. Et il y a beaucoup dans les deux sens. Même chez Platon, qui écrit beaucoup. Il regrette d'une certaine manière la culture orale. Voilà, donc... il y a des avantages. Il y a des avantages. Mais voilà, alors il y a plusieurs raisons. Mais notamment, le fait que pour... Et ça, c'est vraiment, je trouve, assez pertinent pour la connaissance, c'est que il dit quand on lit un écrit pour apprendre, on croit très vite avoir appris parce qu'on a lu, et en fait on n'a pas du tout intégré parce qu'on n'a pas discuté, on n'a pas mis à l'épreuve. Et donc voilà, au contraire d'un échange oral où on vérifie si c'est bien ça, hein, on a compris quelque chose, on vérifie si c'est bien ça qu'on a compris, on précise, on rectifie. Et donc rien de tel pour Platon que l'échange oral, quoi. Le dialogue, d'ailleurs il écrit en dialogue, mais même ça, ce n'est qu'un pis-aller. Hein. C'est vraiment... l'écrit, ce n'est pas ce qui nous fait mieux apprendre. Enfin voilà, il y a encore d'autres choses.
On peut dire qu'il y a aussi une conception aristocratique du savoir, parce que l'écrit, il est à terme accessible et interprétable, et l'écrivain n'est plus maître de
l'interprétation. Mm-hmm. Oui, c'est vrai que quand on lance un écrit, on doit accepter qu'il soit compris autrement que ce qu'on avait prévu. Et donc tout dépend pourquoi on l'écrit. Si on l'écrit en ayant envie d'être compris précisément, on a tout intérêt à y adjoindre des explications le plus possible directes. Je pense que la grande différence, effectivement, du coup, c'est... Si on écrit un traité de mathématiques, par exemple, on n'a pas envie que ce soit interprété, quoi. On a envie que ce soit compris à la lettre, parce que sinon, c'est à côté de la question. Et bon, il faut quand même dire que Platon considérait la philosophie sur un modèle très intellectuel. Il n'avait pas tellement envie qu'on l'interprète. En même temps, on dit aussi, et ça peut expliquer certaines choses, parce qu'à plusieurs reprises, j'ai dit aujourd'hui, bon, c'est très implicite, il passe très vite, il fait comme si ça n'existait pas. Bon, en fait, on a beaucoup d'interprètes actuels pensent que dans les écrits de Platon, il ne disait pas tout, il ne mettait pas tout. Et donc, il y avait un enseignement ésotérique, hein, c'est-à-dire intérieur, interne à l'école, à côté de cet enseignement exotérique qui était publié. Et que le principal, en fait, le plus important, ne venait que dans les échanges. Parce que justement, ça devait être bien compris. C'est pour ça, c'est pas pour faire un secret, c'est pas parce que c'est une secte secrète, c'est parce que ça devait être bien compris. Voilà. Oui, il y a des allusions à ça dans des lettres de Platon. Bon, alors il y a toutes sortes de discussions. C'est vraiment matière à discussion de spécialistes, parce que déjà, on n'est pas sûr de l'authenticité de toutes ces lettres. Enfin bon, donc il faut déjà discuter. Est-ce qu'il a vraiment écrit ces lettres? Et puis, pourquoi il a écrit ça? Mais alors, il y a une autre raison pour laquelle on a pensé ça, c'est que Aristote présente de Platon une théorie des nombres qu'on ne trouve nulle part dans les dialogues de Platon. Et Aristote, c'est sûr qu'il l'a apprise, il a passé 20 ans à l'école de Platon, donc là, s'il en parle, c'est qu'il l'a apprise. Donc on se dit, mais pourquoi alors Platon ne l'a jamais écrite? Et donc c'est pour ça qu'on a pensé, en fait c'est parce que Platon mettait là quelque chose, c'est une théorie des nombres, donc c'est assez mathématique, et c'est en même temps ontologique, c'est-à-dire il fait un rapport entre les idées et les nombres. c'est une conception mathématique des idées. Donc c'est complexe. Et donc sans doute, il n'avait pas envie de devoir l'écrire, de devoir s'expliquer de manière à être compris à la simple lecture. Il pensait que ça n'était pas compréhensible à la simple lecture. Je pense que c'est ça.
Et puis, il y a aussi des gens comme Pythagore qui volontairement évitaient de le faire savoir et le garder
voilà. Pour les fidèles. Ça, c'est un autre modèle. Ça, c'est évidemment le modèle de l'école qui est une initiatique, hein, une école vraiment initiatique, c'est-à-dire avec toute une série de niveaux, vraiment de paliers différents pour accéder au savoir, avec des trucs du genre... Pendant la première année, les élèves ne peuvent qu'écouter, ne peuvent pas parler. Enfin, des choses très, 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 très formalisées.
Oui. Oui, là, je vais me lancer pour simplement, parce que c'est un soir un peu particulier, dire qu'il y a deux ans, je n'osais même pas dire deux mots. J'hésitais à revenir du reste parce que je suis très timide.
Oh.
Absolument. Et alors, j'ai souvent entendu dire que j'étais un nanar de droite.
Oups.
Et alors, ce que je pense depuis que j'écoute Méo, pourquoi pas, peu importe. Ce que je voudrais dire, c'est que peut-être pour reprendre ce que disait madame, que les peintres, enfin moi j'aime beaucoup cette formule que j'ai lue quelque part, les peintres et les philosophes sont les aristocrates dans la démocratie. Ça m'arrange bien parce qu'on a plein de plutocratie, je trouve que ça... Et alors pour terminer, vous dire que j'ai dû tomber sous le charme, bien sûr, de la philosophie, sans trop le savoir, et évidemment du professeur, et peut-être... Pour vous remercier, quoi.
Merci.
Non,
merci.
Oui, tu as employé un mot tout à l'heure que tu n'avais pas employé jusqu'à présent, c'est la cité, c'est le mot de Sparte. Puisque tout ce que tu nous as dit, nous on le ramène tout à Athènes en quelque sorte. Alors qu'à la même époque, il y avait cette ville, cette cité très très importante qui avait l'air de vivre selon des préceptes complètement différents. Alors est-ce que tous ces joyeux peintres grecs dont tu nous as parlé, est-ce qu'ils ont eu une quelconque influence sur Sparte? Est-ce qu'ils ont réussi à y entrer? Est-ce qu'ils sont entrés un jour ou comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ah ouais.
Alors c'est très amusant parce que justement dans l'Hippias majeur, le début de l'entretien, c'est précisément Hippias revient de Sparte et alors Socrate lui demande, tiens, tu as pu exposer toutes tes leçons à Sparte et tout. Il dit rien du tout, ils ne veulent rien entendre, ça ne les intéresse ni les mathématiques, ni les sciences naturelles, ni la poésie, rien ne les intéresse. On dit, qu'est-ce que tu as fait alors à Sparte? Il dit, ce qui les intéresse, c'est les généalogies. Et heureusement, moi, je suis capable d'apprendre par cœur 50 générations successives. Et alors, je leur sors toutes les générations des héros, des fondateurs, des colonisateurs, etc. Et ils adorent. Et ça, c'est Sparte. Voilà. Enfin, c'est Sparte vue d'Athènes, évidemment. Mais de fait, Sparte n'a produit rien de culturel. Hein. C'est une cité vraiment guerrière. On sait bien que l'éducation était complètement axée sur le développement physique, le courage guerrier. L'éducation en commun aussi, c'était extrêmement collectiviste, Sparte, pour l'esprit de corps. Hein. Enfin bon, c'est vraiment le contraire d'Athènes, quoi. C'est l'opposé. Sur ça. Ah oui, il n'y a pas de doute.
Encore une chose, on disait que Socrate était moche. Moi, j'ai 20 ans, je me sers beaucoup dans mes toiles d'intègre pour des tas de symboles, des tas de thèmes. Bon, je ne suis pas très convaincu qu'il soit si bien que ça.
Il le dit lui-même, Socrate. Hein. Il le dit lui-même. Il dit, c'est justement lui qui se décrit comme ça. En fait, on fait des reproductions de lui d'après sa propre description, parce qu'il dit qu'il a le nez épaté, qu'il a des grosses lèvres, qu'il a le front bombé, qu'il a, je ne sais plus encore quelles horreurs, enfin bon, il se décrit comme... Il ressemble à un silène, voilà, il ressemble à un satyre ou un silène. Et bon, lui, il en tire une certaine gloire, puisqu'il dit « toute ma beauté est intérieure », quoi. Donc c'est... il gagne peut-être au change. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a pensé, par sa tenté, par la mort et tout ça, au personnage historique du Christ, en fait, aussi?
Il y a des traits qui ressemblent. C'est vrai que l'idée, effectivement, de la condamnation injuste et puis après la gloire posthume, enfin le fait que après naît tout un courant. Oui, oui, mais sauf qu'elle était très fréquente, si tu veux. Voilà. Donc en fait, maintenant, effectivement, on a tendance à rapprocher des figures, parce que ce sont celles qui, historiquement, sont parvenues jusqu'à nous, mais il doit y en avoir des tas, des figures de ce type-là. Oui. Voilà. Mais comme vous le savez, il y a un petit apéro, et voilà, on peut passer au banquet.